Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est aujourd'hui le début à Paris de la FIAC, la Foire Internationale d'Art Contemporain. C'est le grand marché parisien annuel de l'art contemporain. On se rencontre les galeristes, les conservateurs, les collectionneurs. L'art contemporain pose parfois questions avec des œuvres qui peuvent surprendre, voire choquer. Mais après tout, qu'est-ce que le beau? Nous ne sommes pas habilités à en décider. Avec des œuvres dont on peut avoir de la difficulté à percevoir la dimension artistique et avec des artistes qui aiment provoquer. Mais ce qui est incontestable, c'est que c'est un énorme marché, estimé à près de 2 milliards de dollars cette année dans le monde. L'art contemporain met-il la provoque au service du marché? C'est la question du jour. Et pour tenter d'y répondre, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. Aude de Kéros, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes graveur et essayiste et auteur de L'imposture de l'art contemporain. Et Caroline Schirman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juriste, conseil en propriété intellectuelle pour les institutions publiques et culturelles, ancienne galeriste. L'art contemporain est un milieu coutumier de la provocation. On pense à Anish Kapoor à Versailles, Paul McCarthy avec ses sculptures controversées représentant des excréments géants, aux installations de Yann Fabre, à Jeff Koons qui vient de faire don de l'une de ses œuvres monumentales controversées à la ville de Paris, bien sûr au Britannique Banksy qui a récemment lacéré l'une de ses œuvres alors qu'elle venait d'être vendue aux enchères. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que la provocation est consubstantielle à l'art contemporain? Aude de Kéros.
En effet, l'art contemporain est un produit paradoxal, qui est plus financier que commercial. Et donc, il est basé sur une hypervisibilité d'un côté, une immatérialité d'une certaine façon, qui permet ce côté financier, et aussi une production sérielle. Ce sont les trois choses très importantes de l'art contemporain. Et donc, nous avons des produits qui demandent un scandale, qui demandent pour la visibilité, justement. Mais là, dans le cas des deux, on a deux cas différents avec Banksy.
Et Jeff Koons.
Oui.
Vous êtes d'accord, Caroline Schirman, sur le constat? Est-ce qu'il faut provoquer un petit peu pour être dans la définition de l'art contemporain ou...
Pas nécessairement, non. La provocation, moi, si effectivement le fait de pousser, d'appeler, enfin l'étymologie du mot, la provocation dans l'art. Parfois, vous avez des artistes qui font des œuvres et qui ne savent pas à qui vont être dans la provocation par rapport à ce que le public va ressentir, ou ce que l'institution, ou ce que le marché va ressentir.
Quand on produit une œuvre, on produit son œuvre et on ne sait pas comment elle va être reçue. C'est ça que
vous
voulez
dire? Pas forcément. Et puis vous avez des artistes, effectivement, qui ne sont pas. Vous avez plusieurs catégories d'artistes. Ceux qui effectivement vont se positionner directement sur le marché et vont essayer de provoquer, de mettre les ingrédients de la provocation, on les connaît, les ingrédients de la provocation, la religion, le racisme, l'anatomie,
la
nudité, le sexe, les déjections humaines, la maltraitance animale, etc., etc. Vous voyez, tous les ans, vous avez tout un lot, effectivement, de petits scandales. Puis vous avez des artistes qui font des œuvres et qui, malgré eux, provoquent quelque chose qu'ils n'avaient pas spécialement calculé. Je dirais qu'ils ne sont pas tous calculateurs dans la provocation, à mon sens.
Donc ça veut dire qu'il peut y avoir de l'art contemporain sans volonté de provoquer? Vous avez des exemples?
Oui. Oh bah, je dirais que comme l'art contemporain existe quand même depuis un certain nombre de décennies, je ne suis pas sûre qu'à chaque fois qu'il y ait une œuvre sur le marché de l'art, l'artiste ait voulu provoquer, si vous voulez. Simplement, il crée. Après, la provocation, je pense que c'est autre chose. Je ne dirais pas que c'est consubstantiel, création et la provocation.
Les performances et les provocations dont j'ai parlé en ouverture de cette émission, elles ont pour but de faire réagir, de faire réfléchir, simplement de faire monter la cote de leurs auteurs sur le marché. Qu'est-ce que vous en pensez, Aude de Kéros?
Alors, vous savez, il y a toute la théorie. L'art contemporain est un art très bien pensant. C'est un art qui se veut éthique, qui veut faire réfléchir. Ça ressemble beaucoup à la philosophie cynique des Grecs, c'est-à-dire avec Diogène. On se met tout nu, on se masturbe sur la place de...
Je sais pas votre micro, ça s'entend beaucoup à l'antenne.
Mais seulement, voilà, évidemment, Diogène, lui, était pauvre. Et là, en fait, on fabrique de l'argent avec ça. La provocation, le détournement, la mise en abîme, la déconstruction sont essentiels. Voilà. Et justement, ce qui se passe entre dans cette histoire de Banksy et de Jeff Koons qui se retrouve disons à quelques jours.
À quelques jours d'intervalle dans l'actualité, oui.
Sont deux sujets un peu différents. Vous avez Banksy d'un côté qui va devenir conceptuel en détruisant son œuvre. Il devient, dans la seconde qui suit, conceptuel et son œuvre double de prix. Mais l'histoire de Jeff Koons est un peu différente.
Alors, est-ce qu'en provoquant comme ça, en créant des événements, est-ce que le but, c'est d'avoir une attitude artistique ou de faire monter la cote? Je vous repose la question à vous, Caroline Sherman.
Au niveau de Banksy, de l'œuvre de Banksy, ouais, par exemple.
Par exemple.
Bon, je pense que, mon avis personnel, c'est que c'est totalement fabriqué de A à Z. Le fait de détruire son œuvre, c'est quelque chose qui est absolument pas nouveau dans l'art. Hein. Beaucoup d'artistes ont détruit leurs œuvres. D'ailleurs, depuis cette histoire, la presse ressort effectivement plein de
oui,
d'exemples.
Ça, hein, ça n'a voilà. rien de très original.
Ça n'a absolument, c'est absolument pas original. Hein, voilà. Donc bon, si vous voulez, le truc, c'est effectivement, est-ce que c'est de la provocation pour augmenter la cote? Certainement. Le fait de vouloir échapper au marché de l'art, de vouloir le dénoncer, ça non plus, c'est pas nouveau. Hein. Vous voyez, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Donc je suis pas tout à fait surprise en tout cas concernant cette pièce.
Oui, si on reprend cet exemple, l'œuvre lacérée a donc vu sa valeur augmenter, doubler quasiment. Mmh. C'est quand même un peu difficile d'admettre, je sais pas ce que vous en pensez, Aude de Kéros, qu'il a fait ça pour dénoncer le système des enchères.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que lui se positionne comme street artiste. Et street artiste, c'est un homme qui fait une œuvre qui signifie pour tout le monde, qui est dans la rue, et d'une certaine façon, qui a une authenticité, et qui a un message positif, ou même critique, ou drôle, ou tout ce que. Mais il n'y a pas l'ADN de l'art contemporain. Mmh. Il faut la déconstruction, ou la destruction, pour l'art contemporain.
Alors, ce que vous voulez dire, c'est que Banksy est devenu artiste contemporain à cette occasion?
À cause du système. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'il s'est amusé ou est-ce qu'il y a un petit complot? D'une certaine façon, c'est pas très important. L'important, c'est de savoir que passant de la catégorie street artiste à la catégorie artiste contemporain, on double la mise. Mm-hmm. Alors, ce que fait Jeff Koons, c'est dans l'autre sens. Et ça marche pas. Alors, ça marche pour Banksy, ça double, mais pas pour Jeff Koons, ça pose problème parce qu'en fait, il fait une œuvre d'art contemporain et il veut faire un monument en même temps. Or, si vous voulez, on peut aller dans un sens, mais on peut pas aller dans l'autre. Parce que quand il fait ce monument avec son petit bouquet de fleurs, funéraires,
voilà. Bon,
en réalité, il y a la mise en abîme du monument funéraire, c'est-à-dire l'ironie et tout ce qu'on veut. Parce que si vous allez voir sur Amazon et que vous cherchez sextoy, le fist fucking et vous avez exactement la main qui porte le bouquet. Mmh. Si vous allez un peu plus loin et que vous cherchez un fouet LGBT de toutes les couleurs, vous allez avoir le bouquet de tulipes. Et c'est un sextoy qui tient l'autre.
Oui.
Donc vous avez l'œuvre d'art contemporain, elle est complète, elle est totale. Mais elle veut être aussi monument funéraire. Et là, ça pose problème.
Alors, je vais finir, et on va pouvoir en continuer à en parler. Je vais finir sur cette histoire de Banksy à la maison Sotheby's. C'est la question que tout le monde se pose. Selon vous, est-ce qu'on peut imaginer que la maison Sotheby's qui a organisé la vente n'ait pas été au courant? Caroline Sherman.
Ça paraît bizarre qu'elle ne soit pas au courant. Encore une fois, je ne suis pas dans le secret des dieux, si je puis dire.
Enfin, c'est quand même des commissaires-priseurs qui expertisent les œuvres.
Vu l'épaisseur du cadre. Tableau, et puis vu la programmation. Alors, c'est vrai, je ne suis pas une technicienne de la programmation, mais enfin, il me semble tout de même que ça a été programmé pour que ça se détruise. Donc ça, on peut imaginer que ce soit un petit peu compliqué à programmer à l'avance. Mmh. En tout cas, pile entre le temps où cette œuvre a été vendue, mise sur le marché, et le moment de la vente aux enchères.
Ça veut dire qu'il y avait peut-être quelqu'un avec une télécommande dans la salle, quelque chose comme ça?
Quelque chose comme ça, mais je n'en sais absolument rien.
Aude de Kéros, qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Je trouve que ça n'a pas d'importance par rapport au phénomène.
Je comprends.
Voilà. Non, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la fragilité et la force du système. Mm-hmm. Parce que ce système où vous avez hypervisibilité, mais aussi immatérialité de l'œuvre, et destruction, et déconstruction, comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec ça? Eh bien, c'est parce que ça ressemble beaucoup aux produits financiers.
Alors,
ça a la structure du produit financier.
C'est la question suivante, celle que j'allais vous poser. On parle des artistes les plus connus, là, Jeff Koons, Yann Fabre, Banksy et d'autres, Anish Kapoor. Est-ce que pour les artistes les plus connus, c'est de l'art ou est-ce que c'est de la pure spéculation?
Écoutez, je pense que...
Pour ceux qui achètent, en tout cas.
En tout cas, ça marche très bien et c'est très bien mené. Voilà. En fait, de quoi s'agit-il avec le bouquet de Jeff Koons? De ce qu'on appelle un produit d'appel. Alors, ce produit d'appel, il est hyper visible. Et derrière ce produit d'appel, vous avez tous les produits sériels. Et vous avez aussi ce produit d'appel qui peut se faire en plusieurs exemplaires. Hein, vous savez, le chien de Jeff Koons, qui a coûté 58 millions, il y en a 7.
Il y en a plusieurs exemplaires, c'est le chien rose en ballon. Hein,
donc,
en...
quand le cours monte à 48 millions, tous les autres montent à 48
bien
millions.
Sûr.
Alors, vous avez ce genre de choses. Alors, avec Banksy, il y a aussi toute l'industrie derrière qui va avec les gravures qui vont à 5000 euros, les exemplaires qui sont faites en appuyant sur le bouton imprimé, n'est-ce pas? Et puis, vous avez également les cartes postales, les porte-clés, les t-shirts, etc.
Bon, alors, ce sont des produits d'appel et le reste, c'est des produits dérivés dont la valeur monte, c'est ça?
Non, c'est une industrie.
Ouais, une industrie
c'est carrément
ça.
Une industrie culturelle. Oui, donc,
des produits dérivés.
Si vous voulez, c'est très important qu'il y ait un scandale, qu'on en parle beaucoup, qu'on le voit énormément, parce que ça entraîne derrière une industrie. Mmh. Et donc, vous avez là un peu tous les éléments de l'invisible et du visible qui jouent ensemble.
Caroline Schirmann, est-ce qu'il n'y a pas deux marchés, le très haut de gamme, ce dont on parle depuis le début de cette émission, avec les principaux pays, les principales villes, New York, Londres et les villes de Chine, et d'autres marchés un peu moins gros, mais un petit peu moins fous derrière, le marché français, je sais pas. Est-ce que c'est un seul et unique marché? Est-ce qu'on est sur des choses un peu différentes?
En tout cas, on est sur un marché de foire, très clairement. Là, depuis une bonne dizaine d'années, c'est incontournable. Donc, les foires sont de toute façon internationales. La FIAC est en très très bonne position. Donc, le marché de la France, a fortiori, l'est. Et puis, vous avez l'Armorie Show, vous avez Londres, vous avez Hong Kong, vous avez Bâle, qui est quand même aussi une des places les plus importantes. Et puis, vous en avez partout, ce qui fait que vous avez les plus grandes galeries qui se retrouvent dans toutes ces foires, quasiment, qui remontrent effectivement, qui diffusent des artistes qui peuvent être les mêmes, avec des œuvres différentes, qui vont elles-mêmes discriminer leur propre marché en fonction de la géographie, en fonction du public. Vous voyez, là, par exemple, une galerie aujourd'hui très importante à Paris, elle va pas traiter de la même manière les collectionneurs qui vont acheter de l'émergence chez elle, et effectivement des collectionneurs qui vont acheter des choses plus traditionnelles, entre guillemets, et plus installées déjà. Donc si vous voulez,
ces collectionneurs,
le marché passe dans les foires.
Ne se croisent pratiquement pas, c'est ce que vous êtes en train de dire.
Ils peuvent se croiser, forcément.
Oui, oui. Il y a des marchés différenciés.
C'est un petit milieu, mais on peut tout à fait, effectivement, discriminer le marché. Comme un produit, sauf que ce sont des œuvres aujourd'hui. Mais le marché passe par les maisons de vente et par les foires. Les galeries font un travail formidable, mais ça passe par les foires. Les galeries doivent être visibles dans les foires et les œuvres plutôt importantes financièrement doivent se retrouver en maison de vente. Il y a une espèce d'inversion de la construction de la valeur aujourd'hui.
Alors c'est la question que j'allais vous poser. Qui maîtrise ce marché? Ce sont les artistes, les collectionneurs, les galeristes, les maisons de vente. Qui en profite le plus, Aude de Kéros?
C'est une technique de fabrication de la valeur qui se fait en réseau, fermée depuis à peu près la fin des années 90, si bien que ça ne peut pas baisser. Alors, c'est le très haut marché qui est sécurisé et qui ne baisse pas, qui ne se casse jamais la figure quand il y a un crack, qui continue sa route parce que c'est un club où on s'achète entre soi et on ne vend jamais quand il ne faut pas vendre. Ça, c'est une chose. Si vous voulez, vous parliez de est-ce qu'il y a plusieurs marchés? Oui, il y a beaucoup, beaucoup de marchés. Seulement, il y a un seul marché très visible, c'est le très haut marché. Et ce très haut marché, si vous voulez, il arrive à faire de telles performances parce qu'il est hégémonique et qu'il n'a pas de concurrence. Tout le reste du marché est invisible et tous les autres marchés sont invisibles. Et il vient de se produire hier un fait qui change complètement le paradigme de ce qui est en train de ce qui se passe depuis, disons, presque 30 ans. C'est Thierry Herman et la société Artron, qui est une société de big data et pas que en Chine, qui ont passé un accord commercial. Or, Si vous voulez, il faut savoir que le marché chinois est prédominant déjà depuis 2012. Donc, ça fait déjà pas mal de temps.
C'est presque aussi fort que ce qui se passe aux États-Unis. Oui. Hein, c'est pas, pardon, 100 millions de dollars près.
Mais c'est parfois plus, et parfois égal, ou un tout petit peu moins. Mais c'est, disons, beaucoup plus souvent, plus que, que moins. Alors, ce marché-là avait un immense problème, c'est qu'il était à l'écart. Et qu'il y avait la barrière de la langue et il y avait la barrière des relations. Parce que, comme vous savez, la Chine n'a pas laissé rentrer les GAFA. Et donc, il a créé entièrement son système Internet.
Un écosystème numérique propre à la Chine, oui.
Alors, Thierry Herman, avec Artron, ont passé un accord. Et tous les datas de Thierry Herman et tous les datas d'Artron ont été traduits dans un sens et dans l'autre. Si bien que la barrière de la langue disparaît, mais aussi la barrière du paiement. Parce que la Chine a créé WeChat ou d'autres moyens pour payer en ligne. Donc, tous les Chinois peuvent aller d'une façon sécurisée sur le marché occidental, acheter, etc.
C'est le Big Bang, en fait,
numérique
du
marché. Et c'est surtout la concurrence qui arrive et qui va complètement modifier les relations.
Est-ce que, je pose cette question vraiment, pas comme un provocateur, mais est-ce qu'il y a des amateurs d'art contemporain pour l'art contemporain qui aiment ça, ou est-ce que la dimension investissement, elle est toujours présente, voire primordiale, Caroline Sherman?
Il y a les deux. Franchement, il y a les deux. Pour avoir effectivement co-dirigé une galerie il y a quelques années, et puis pour avoir travaillé aussi dans une grande institution, je me suis aperçue que vous aviez des gens qui accédaient à l'art contemporain avec effectivement une vraie envie de posséder une œuvre et qui avaient un vrai coup de cœur. Ma foi, si c'est en même temps un bon investissement, bon bah tant mieux.
Mais cette dimension est toujours connexe.
Alors pas toujours, parce que c'est pas forcément facile de revendre une œuvre que l'on a achetée déjà. Vous voyez, donc on achète une œuvre, on veut la remettre sur le marché 5 ou 10 ans après. Si c'est un artiste de l'émergence, un artiste émergent, au moment où on l'a acheté 5 ou 10 ans après, il va falloir trouver un circuit pour la remettre en vente, ce qui est vraiment pas simple. Après, vous avez des personnes, vous avez plusieurs cas de figure. Vous pouvez aussi avoir des fonds d'investissement. Alors les personnes qui sont dans les fonds d'investissement pour acheter de l'art ne voient même pas les œuvres. Vous voyez, c'est un produit en définitive.
Comme un produit financier, comme on disait.
Voilà, mais vous avez un peu tous les cas de figure. Mais je dirais que le fait que l'on fasse aussi un investissement avec toute la difficulté qu'on puisse avoir à revendre, puisque tout le monde ne peut pas remettre dans le circuit des maisons de vente, et ça peut pas être acheté par une galerie, forcément, vous voyez, une œuvre. C'est quelque chose qui n'est pas incompatible avec le fait d'aimer l'art et d'aimer vraiment une œuvre d'un artiste, vous voyez. Mais et puis d'autres personnes achètent aussi des œuvres avec lesquelles elles ont du mal à vivre ou qu'elles laissent dans des ports francs ou dans des stocks,
dans des containers.
Voilà, dans des containers, et elles ne les voient pour des raisons fiscales que lorsqu'elles sont exposées par des institutions publiques. Vous voyez, vous avez plusieurs cas de figure. Je ne pense pas qu'on puisse résumer à la spéculation le fait d'acheter de l'art. En tout cas, c'est de mon expérience d'ancienne galeriste.
Aude de Quiros, vous êtes d'accord ?
L'élément nouveau qui fait la rupture avec un système qui a duré une trentaine d'années, c'est que la Chine, contrairement au système New York, qui est le système dominant, anglo-saxon New York, a décidé, à égalité tout les courants conceptuels, pas conceptuels, tous les courants sont admis. Et donc, dans le nouveau fichier de Thierry Herman et des Chinois, vous aurez tous les courants qui vont apparaître.
Merci
beaucoup. Et donc, c'est la concurrence.
Merci beaucoup, Aude de Quiros. Merci également à vous, Caroline
Merci
Sherman.
Pour cette invitation.
Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique magazine. Rejoignez le débat du jour sur les réseaux sociaux. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.